Ok, donc on reprend avec notre Jérôme Larry National qui va nous parler de voilà, voler aux généistes, ce qu'on fait déjà. Vas-y Jérôme.
Bonjour tout le monde. Alors en fait, Fabien tout à l'heure disait qu'il venait en tant qu'auteur. Moi je viens pour une réclamation. Il y a un truc qui a l'air vachement sympa que font les généistes. Et j'aimerais bien que bah, les auteurs qui sont ici s'en emparent. Moi c'est pas la peine, de toute façon je suis à la bourre sur mes jeux donc je pourrais pas. Par contre, si vous pouviez faire des jeux super sympas avec ou vous réapproprier le truc et faire des choses, et il y en a déjà plein, hein, mais continuez, bah moi je serais ravi de regarder tout ça. Donc, en gros, de quoi on va parler ? On va parler d'une pratique qui s'appelle les ateliers en gène. Ça sert à faire tout un tas de choses, plein de choses. Et notamment, c'est intéressant sur les questions d'engagement parce que c'est souvent très pratique pour débuter, notamment pour commencer à rentrer dans le jeu, dans la fiction, pour briser la glace, pour s'engager un peu dans tous les sens en fait du terme s'engager, sauf le côté peut-être militant et encore. Et si on a le temps, ben, voir quelles sont les leçons et outils à en tirer pour le JDR sur table. Alors, commençons donc par parler des formes de JDR. Alors, Vivien en a déjà parlé ce matin. L'idée, c'est qu'il y a un truc central qu'on appelle le JDR sur table de façon classique, enfin qu'on connaît tous, et qu'à côté, il y a plein de choses qui sont, selon à qui on demande, soit du JDR, soit pas du JDR, mais quand même très proche, et globalement, on ne sait pas, et on va passer 15 ans sur les forums à se prendre la tête pour savoir ce que c'est exactement. Nous, pour ce truc-là, on va partir du principe qu'il y a donc le JDR sur table, qu'il y a tout un ensemble de jeux. Alors, pour reprendre la définition de Pluralis, qui sont intercréatifs, qui sont les jeux de rôle. Et dedans, on va mettre le story game, alors dans une des interprétations de ce matin, les soirées enquêtes, les freeform. Alors, freeform, tant qu'à faire, c'est un nom qui est utilisé pour différents types de jeux. Histoire que ce soit bien compliqué. Les checkpoint games, c'est un nom qui a été donné à des jeux dont on parlait bien ce matin, genre Monségur, The Witch, The Road to Lindisfarne. Selon les exceptions, on peut y mettre Fiasco aussi ou pas dedans. Et tout un tas d'autres choses. Donc là, on va se concentrer sur le JDR et le GN au sens large. Alors pour moi, je suis qu'il n'y a pas très longtemps, le GN, en fait, c'était des gens qui allaient un week-end en forêt choper la chasse pendant 3 jours, quoi, à peu de choses près. C'est filmé, bon, tant pis. Dans les faits, c'est beaucoup plus varié que ça, et heureusement. Alors là, derrière moi, il y a des photos que vous devez pas très bien voir, je pense. Mais en gros, on a par là un GN qui se passe en Allemagne qui s'appelle Conquest of Mythodea, je crois, qui est un des plus gros, sinon le plus gros en nombre de participants. Je crois que c'est de l'ordre de la dizaine de milliers de personnes, en comptant les PNJ, tout ça. Hein. En bas, vous avez un GN qui se passe en fait à Almeria, en Espagne, donc là où dans les décors de plein de westerns. C'est pareil, c'est un truc qui donne envie, hein, clairement. Et puis vous avez des choses beaucoup plus intimistes, hein, avec donc par là, un GN qui se joue à deux dans un bar, qui raconte donc tant d'espace pour les connaisseurs, qui raconte en gros l'histoire d'un couple. Enfin, c'est une rencontre d'un couple après quelques années de séparation. Alors vous voyez en fait juste un truc blanc, la tache blanche, c'est une camisole, et c'est un tête-à-tête entre un tueur et, on va dire, un expert. Tout ça pour montrer que c'est extrêmement varié. Sur cette diversité, en fait. Donc comme je disais, on va grouper là, pour ce cas-là, pour le coup des ateliers, le GN, les freeform et les murder parties, en gros, les jeux où on sert de son corps. C'est pas forcément la raison principale, mais c'est un très commun. Ce sont des jeux qui sont... Alors, je vais dire qu'ils sont nés dans les années 80, début des années 80. C'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire des gènes, il y en avait déjà avant. Dans les années 60, il y avait la Society for Creative Anachronism, je crois, par exemple, C'était pas tout à fait du gène, mais on va dire le gène qui découle du jeu de rôle. Souvent, on met l'acte de naissance à Treasure Trap, qui est un jeu en Angleterre en 82. Sur les freeform, il y a une tradition qui est très très forte en Australie. Alors, on n'a pas forcément beaucoup gardé la trace, et notamment au sein de l'Octacon, qui était une convention qui a lieu en 83, où il y a ce qu'on considère comme les premiers freeform. Mais il y a, par exemple, il y a des ouvrages théoriques et recueils de jeux sur le freeform australien de la fin des années 80, ce qui est des choses qu'on voyait pas forcément chez nous. Les Murder Parties, c'est pareil, je parle de la partie qui descend du jeu de rôle. Il y avait des Murder Parties bien bien avant l'existence du jeu de rôle. Sur le côté dynamique et protéiforme du GN, donc c'est sur les photos que vous voyez pas, on a des gènes qui varient énormément en taille. Entre ce qu'on appelle donc les, enfin en gros avec des milliers de participants, d'autres qui se font à deux. Sur la durée, ça varie aussi énormément, donc je vais pas juste relire ce qu'il y a là. En termes de dispositif d'illusion, c'est-à-dire à quel point on se casse la tête pour que ça ressemble à quelque chose. On va avoir par exemple celui que vous avez vu, le western, où là tout ce que vous voyez en fait est un élément du jeu. Sauf qui pose des problèmes de sécurité, et d'autres types, donc comme les Dogsville, c'est-à-dire d'autres où on va mettre du scotch par terre et puis on va dire à partir de là c'est le salon, là-bas c'est la cuisine et là-bas c'est les dépendances, quoi. Pour ceux qui jouent au foot gamin dans la cour d'école, c'est pas très loin de lâcher son anorak par terre et de dire c'est les buts, quoi. Il y en a qui sont costumés ou pas. Il y a une énorme variété de genres. Donc l'exemple que je prenais tout à l'heure de la fantasy, plusieurs là dont vous ont montré sont dans un genre plus large moyen, et quasiment tout est possible, quoi. L'autre élément qui est intéressant, et notamment par rapport à tout ce qu'on va pouvoir trouver sur ces notions d'atelier, c'est que le gène en fait produit énormément de techniques et énormément de théories. C'est-à-dire les gens se parlent. C'est déjà énorme. Ils se parlent, et ils se parlent pas qu'entre eux. Ils regardent aussi ce qu'il fait à côté. Alors on a évité la jeunesse ce matin, on va l'éviter là aussi. Mais par exemple en 2006, à partir de 2006 jusqu'à 2012 à peu près, il y a un phénomène qu'on appelle la diaspora de la forge. Qui en fait c'est le moment où les principaux forums de la forge de création vont s'arrêter. C'est-à-dire, ils seront toujours disponibles, mais on pourra pas aller dessus. Il y a plein de ces habitués qui vont aller polliniser ailleurs en fait et discuter de leurs propres modèles, leurs propres idées avec un tel avec de l'OSR, un tel avec donc des génies scandinaves et qui vont amener d'autres choses. Notamment on a parlé d'Emily Kerbos. C'est sans doute un des meilleurs exemples, mais il y en a plein d'autres. Et c'est quelque chose qui va... cette histoire de théorie, elle va notamment se manifester par une convention qui s'appelle Knotpunkt, donc qui est... elle a quatre noms, je crois, parce qu'elle se passe dans quatre pays. Il y en a trois qui ressemblent à ça, et puis il y en a un qui n'a rien à voir, parce que c'est tellement beau, les langues scandinaves, autant être compliqué. Hop. Non, parce que vous avez triché, sinon. Par contre, l'avantage de cette convention, c'est qu'elle va vraiment rassembler un peu toutes les écoles en question, et que les gens, vont énormément échanger. Après, je vous passe tout le reste. Le fait que ça aille dans plein d'autres pays, à midi, il y a quelqu'un qui parlait d'Iginal ou de la Beaugéenne, donc ça, c'est des choses qu'on voit en France. Il y en a, vraiment, ça a été repris partout. Donc passons à la suite. Du coup, est-ce que quelqu'un a la réponse? Alors moi, je dirais pas qu'elle est fondamentale. Je dirais juste qu'on peut leur piquer. C'est déjà beaucoup. Mais... Quelqu'un d'autre? Ouais, c'est déjà pas mal. Hein.
Face à face, et comme tu disais tout à l'heure, tu parles, en fait, les gens, ils se parlent. En GDR aussi, mais le cadre
Alors, effectivement, c'est différent. Pour moi, je suis d'accord. Le premier problème, en gros, c'est dès qu'on va avoir... les principaux points, ça va être dès qu'on va avoir une confrontation entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. C'est-à-dire que sur le jeu de rôle, c'est assez simple. En général, c'est ce qui est imaginé qui va avoir l'ascendant. Et ce qu'on va faire de réel, c'est-à-dire la discussion, tout ça, ça va être une interface avec l'imaginé. Sur le GN, on va avoir plein de points d'achoppement. Vous parliez du corps. Moi, clairement, je suis très très limité dans mon choix de GN. Et si vous voulez que je vous parle pendant une demi-heure des problèmes du corps dans le GN, je peux, quoi. C'est pas très compliqué, et j'imagine que vous comprenez aisément pourquoi. Un autre problème, c'est la performance. C'est-à-dire que les... En jeu de rôle, si jamais vous merdez une action, vous la réalisez pas très bien, vous vous mettez à mourir à la Marion Cotillard ou des choses comme ça, c'est pas très grave, vous avez pas pourri le jeu de tout le monde, en fait. On peut très bien dire finalement t'y arrives ou tu sais pas t'y prendre, etc. Quand on imagine des combats de mousquetaires qui sautent partout, etc., en GN, si vous y arrivez pas, vous y arrivez pas, quoi. Alors il y a bien sûr des systèmes pour compenser, etc., mais globalement la relation à la performance, elle existe dans les deux formes de jeu, hein. Juste elle est pas la même. Et après, notion liée au cadre et à l'espace, en prenant un exemple, vous avez vu les Indiana Jones, celui où il y a une espèce de pont invisible. Ça doit être compliqué à faire en GN. Enfin, si vous voulez garder vos joueurs. Ça, c'est en se concentrant sur des grands points, parce qu'il y a plein d'autres différences, c'est évident. Et globalement, j'essaie de résumer rapidement un domaine que je connais que peu, en fait. L'engagement. Alors l'engagement, je vais essayer d'aller très vite parce qu'on a beaucoup parlé. Il y a plein de définitions de l'engagement autres que le fait d'être militant. Et en fait, quasiment tous ces éléments-là ramènent à des choses qui sont très importantes dans le design. Et globalement, ce qui va être intéressant pour les ateliers, ça va être des notions de cohérence, ça va être des notions de consentement, ça va être des notions de capacité d'attention. Tous ces éléments-là, on va les retrouver dans les ateliers. Il faut savoir aussi qu'en français, engagement, il y a plein de théories qui, en anglais, portent des mots différents et qui se nomment engagement en français, que ce soit l'involvement, le commitment, etc. Un autre élément sur l'engagement, ça va être donc ce que cette personne, Takeli, appelle la hiérarchie de l'engagement, c'est-à-dire à quel point on va être lié au jeu, à quel point le jeu va être important pour nous. Alors, je vais aller vite là-dessus. Ce qui me semble intéressant, et pourquoi ça me semble intéressant d'en parler avec le cas des ateliers, c'est que les deux éléments les plus bas, la distraction, c'est quand, par exemple, vous voulez juste pas vous ennuyer. Alors je pense que plus personne n'a fait ça depuis des années, mais c'est quand vous allez à la gare, vous prenez le train, et plutôt que vous vous embêter dans le train, vous achetez un truc de mots fléchés, par exemple. Bon, on va dire Candy Crush Saga, ça fait plus moderne, mais c'est un peu l'idée. Ça, par exemple, quasiment personne fait du JDR comme ça. Personne ne fait du JDR parce que... très peu de gens le font parce qu'ils s'ennuient. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est embêté à rendre ça possible, en fait. L'amusement, c'est un peu la même idée. Donc c'est que ça va déclencher votre intérêt, mais ça va pas aller beaucoup plus loin, en fait. Et il y a déjà, pour jouer au jeu de rôle, de façon régulière, à moins qu'il y ait quelqu'un qui le prépare systématiquement pour vous, on va se retrouver avec un engagement qui est plutôt élevé. On peut en être fier ou on peut penser que c'est un problème sur l'attrait du jeu. Et bien, on va vraiment commencer à parler du sujet, du coup. Les ateliers. Donc, alors c'est super difficile à définir parce qu'aujourd'hui, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Alors, je ne sais pas qu'ont été utilisés pour la première fois les ateliers en tant que tels et repérés en tant que tels. La première trace qu'on a trouvée, c'est un jeu que je ne risquerai pas de vous prononcer, qui est par là, dans la marge, et qui date de 99. L'idée, en gros, c'est qu'on va faire des activités qui sont périphériques au jeu, pour que le jeu se passe mieux, ou soit plus plaisant, ça. Au départ, on parlait surtout de préparer... de s'échauffer, de se former, de briser la glace, des choses comme ça. Donc des activités qu'on faisait en amont et qui étaient préparatoires. Aujourd'hui, c'est tout et n'importe quoi. Alors j'exagère en disant tout et n'importe quoi, mais on peut le faire en amont, on peut le faire aussi en aval. En aval, c'est que par exemple, ça va être du débriefing, ça va être géré à quel point les émotions vont être compliquées en sortant du jeu. Je prends un exemple très bête. Sur un jeu qu'on a fait, qui était un des jeux les plus difficiles, c'est un jeu qui s'appelle Huntsville, qui tourne autour des derniers moments d'un condamné à mort. Donc déjà, c'est pas le truc super super excitant, etc. Le jeu est sympa, hein, mais... Donc nous, on y joue, on est coupé du monde, s'arrête la partie, on commence à discuter comment ça va, et il se trouve que c'était le soir du Bataclan. Donc la sortie a été un peu rude, avec, quand on reprend les téléphones, plein de gens qui veulent savoir où on est, pourquoi on répond pas, ça fait super longtemps que vous répondez pas, vous êtes pas parti à Paris ce week-end-là, qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est bien d'être en groupe à ce moment-là. C'est bien de pouvoir en discuter. Après, bon, c'est pas un atelier à proprement parler, mais c'est un exemple un peu extrême pour en expliquer l'intérêt. C'est des choses qui peuvent être jouées ou pas. Ça peut être joué, ça peut ne pas être joué, ça peut être joué, mais n'être joué que pour du beurre. C'est-à-dire, on va essayer. On essaye, on voit comment ça roule. Par exemple, je sais pas, une règle qu'on sait pas mettre en place ou sur des notions de sécurité, devoir interrompre la partie, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, c'est pas forcément évident, comment ça se passe, comment on le fait. Eh ben, on essaye. On voit si ça va, ça va pas. Éventuellement, on discute pour trouver une autre façon de faire si ça marche pas. Ça peut se faire en costume ou pas. Et des fois, ça se fait carrément pas le même week-end que le jeu. Ou ça se fait pas au même endroit. Pour prendre un exemple, on m'a raconté une partie, un GN, où, arrivé sur place, l'organisateur dit pour les ateliers, je sais pas trop ce que je vais faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez faire? A priori, ça faisait un peu bizarre, quoi. Puisque c'est préparé un jeu particulier. Mais l'idée, c'est que on va avoir des éléments qui font partie de l'événement, qui sont pas le jeu à proprement parler, qui sont périphériques et qui vont aider à ce que le jeu se passe bien. Alors, à quoi ça ressemble? Donc là, vous voyez rien, c'est ça? Ben, vous allez me dire à quoi ça ressemble, du coup, hein, parce que je vais pas tout faire. Alors, c'est à peu près ça, en fait. C'est sur un GN qui s'appelait, je crois, c'est Lords of the Rings, hein. Et c'est un GN qui se passe dans le monde du catch. Et c'est un atelier de 3 heures pour, en gros, apprendre à faire du catch et pas se faire mal en tombant, quoi. Ouais, parce que ça a l'air un peu abstrait qu'on en parle comme ça, mais en voyant les photos, on voit bien que ce sont des choses qui sont très compliquées à mettre en œuvre. Hein. Donc là, c'est le jeu dont je vous parlais tout à l'heure, sur l'histoire de couple, qui se réunit. C'est un atelier, en fait, entre deux personnes, puisque le jeu se joue à deux, pour... alors, je crois qu'il y en avait deux sur celui-là. Un pour soutenir les regards, ce qui est pas forcément évident quand on joue avec du monde autour. Être capable de ne pas avoir peur des silences. Et l'autre possibilité, alors je sais plus sur cela exactement, c'était peut-être se fabriquer des souvenirs communs avant d'aller en discuter dans un bar. Un autre exemple, c'est le fameux jeu dont je vous parlais sur le condamné à mort, celui-là. En gros, dans ce jeu, il y a deux familles qui viennent assister à la condamnation à mort. Celle de la victime, celle du condamné. Et c'est deux familles qui se connaissent. Donc là, en fait, avant la partie, vous savez, en tout cas, avant de commencer la partie la plus active, on va discuter tous ensemble pour voir, pour tisser des liens, en fait. Au niveau des personnages, hein, j'entends. Ça se fait aussi au niveau des joueurs, mais c'est notre atelier. Celui-là, je vais vous éviter les photos, on est trop ridicule. Hein. En gros, c'est deux photos de famille avant ou après la disparition d'une personne. Et pour voir quel est l'impact qu'il y a dessus. Et vraiment, l'atelier, là, c'est juste prendre une photo. Enfin, deux, en fait, et comparer. Donc, c'est pas des choses incroyables. On n'a pas besoin de réinventer la roue ou de faire des trucs super complexes, quoi. Alors, celui-là, c'est dans un jeu qui s'appelle Nexus 6, je crois. En gros, les participants jouent des soldats d'un empire totalitaire ou un truc du style. Et ils doivent apprendre l'hymne à la nation. et pour l'esprit de corps, etc. Et donc, une partie des ateliers, enfin, non, je crois même que c'est fait avant la partie, hein, c'est peut-être un atelier, mais au moins consiste à leur faire répéter cette hymne à la nation qu'ils vont devoir entendre pendant, je crois que c'est 48 heures, 24 heures, en permanence, avec tous les faits propagandes qu'ils ont pu s'imaginer. Alors moi, je l'ai, j'ai pas fait ce jeu, mais l'image que j'ai en tête à chaque fois, c'est Stalingrad, le film. Alors, un jeu qui s'appelle Mad About the Boy. Oui, je vois qu'il y en a qui est un jeu qui se passe dans un futur où les hommes n'existent plus. Donc les participants doivent jouer des femmes. Donc on va faire des ateliers où on va leur apprendre. Alors je crois que celui-là, c'était se déplacer comme une femme, peut-être ? Marcher comme une femme. Je sais pas s'il y en a un pour parler, ou pour ne pas parler, aussi. Et le dernier, c'est un déguisement. Donc Christine, qui est là, hein, si vous la cherchez, elle est dans la salle. Si vous la reconnaissez, bravo. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire en atelier. C'est des préparations, c'est des... Alors, quel est l'intérêt de tout ça ? Le premier, c'est un intérêt, alors on va rejoindre les discussions de ce matin sur la transmission, c'est de s'assurer que tout le monde ait bien compris le message, quel que soit ce message. C'est-à-dire que si on envoie un document de jeu qui fait 40 pages, 3 mois à l'avance, ben on n'est pas sûr qu'au moment où on commence la partie, tout le monde se souvienne de l'essentiel. On n'est pas sûr que tout le monde l'ait lu, mais c'est pas forcément... enfin, peu importe les raisons, c'est pas le jugement. Mais réinsister sur l'essentiel et revenir, c'est peut-être pas mal. C'est assez indispensable en matière de sécurité. Alors, qui est pas toujours quelque chose d'évident dans le jeu de rôle quand on joue chez soi, mais ça peut être aussi de la sécurité au niveau interpersonnel. Où là, ça peut être plus utile. C'est aussi s'assurer d'un certain niveau de compétence. Alors, par là, j'entends être capable de faire des choses. Ça peut être aussi bien, est-ce que tu as compris enfin comment on se sert de ces putains de règles de magie, ça fait 3 fois que je t'explique, ou est-ce que vous en connaissez suffisamment sur l'univers pour comprendre le truc, le scénario que j'ai mis 3 heures à préparer, et auquel vous ne pourrez pas comprendre si jamais vous savez pas que telle faction existe, par exemple. Je prends des exemples volontairement très terre-à-terre, mais c'est pour montrer qu'en fait, c'est des choses très proches de ce qu'on fait déjà. Donc, faciliter l'accès au coup d'entrée, on a parlé. Engager la créativité et réduire les problèmes de façon générale, on a parlé. Donc, je vous avais expliqué que ça servait à faire plein de choses. Ben voilà plein de choses. Et voilà plein de choses aussi. Et revoilà plein de choses. En gros... Donc les deux premiers tableaux, c'est une méthode qui a été présentée par quelqu'un qui s'appelle Mo Holker, avec en gros tout ce que cette personne fait pour préparer sa séquence d'atelier et pour les séquencer. Et en fait, elle prend tout simplement dans l'ordre toutes les lignes du tableau. Elle essaye de voir si elle met un atelier adapté ou pas, est-ce que c'est utile et est-ce qu'elle fait. Si je l'ai mis dans cette présentation, c'est plus parce que ça permet du coup de voir sur quoi peuvent porter ces fameux ateliers. Donc cette personne sépare entre les ateliers pour les joueuses, enfin pour les joueurs, hein, c'est le même problème que tout à l'heure, ou pour les personnages. Je vous prends 2 exemples, pour le reste, si vous voulez, je vous passerai le slide si ça vous intéresse, parce qu'il y a vraiment trop de points pour les voir un par un. Quoi. Alors, je vais essayer d'en prendre un qu'on n'a pas déjà vu, mais sur la proximité, puisque c'est une question qui peut se poser en GN plus qu'en jeu de rôle, c'est-à-dire jusqu'à quel point on peut toucher l'autre. Il y a des GN qui commencent tout simplement par le fait de se promener. Et quand on croise quelqu'un d'autre, montrer comment est-ce qu'on salue quelqu'un dont on est proche, très proche. Est-ce qu'on accepte de se faire enlacer, enfin, sans forcément que ce soit sensuel, hein, mais à quel point on accepte le contact physique, en fait. Et à quel point on est prêt. Un autre exemple qu'on a vécu sur un GN qui s'appelle 7 ans à Poudlard, je crois, dans le monde d'Harry Potter, c'est en fait, c'est de se crier dessus pour voir quelles sont les limites et à quel point on peut doser en fait une progression dans l'agressivité orale. Pourquoi ? Pour éviter déjà qu'on le supporte mal quand ça arrive en jeu. Alors il y a des moyens de l'arrêter, hein, ça arrive, mais ça permet de réduire les problèmes, et pour soi-même être capable de doser et être capable de voir comment on module. Et pas être en mode tout ou rien. Parce que c'est le meilleur moyen. Enfin, dans ce jeu-là, c'était un jeu qui durait donc sur 7 ans. C'était une très très bonne façon de pourrir le jeu dès la première année, en fait. Pour les personnages, c'est des choses qu'on. La plupart des photos que je vous ai montrées, c'était des choses pour les personnages, en fait. Pour apprendre à donner vie, les souvenirs communs, des choses comme ça. Donc je vais pas détailler là-dessus. Je reviendrai plus tard. Ça, c'est notre façon de faire une typologie des ateliers. Pareil, je l'ai mis, si ça vous intéresse, je passerai le truc. Alors, ça a inspiré pour le JDR, parce qu'on est quand même là pour leur piquer des trucs. Hein. Alors, pourquoi le faire ? Bah, à peu près pour la même raison que pour le GN, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est bien pour eux, c'est bien pour nous. Les mêmes avantages, c'est-à-dire que en termes de facilité d'accès, en termes, en gros, d'investir un peu de temps pour en gagner beaucoup après, pour limiter le temps à ne pas jouer. Alors, pourquoi je parle de ça ? Parce que, je sais pas si vous avez déjà sans doute fait l'expérience, vous expliquez à votre groupe, à quelqu'un de votre groupe qui n'a pas pu venir, comment s'est passée votre partie du week-end dernier, et vous expliquez que vous avez commencé par une création de perso qui a duré un peu longtemps. Et là, la personne vous demande, mais quand c'est que vous avez commencé à jouer ? Donc ça veut dire après la création de perso. Et pourquoi la création de perso, c'est pas du jeu ? Pourquoi ça en fait pas partie, en fait ? D'une part, ça peut en faire partie, ça peut être quelque chose d'amusant, et je pense que ça devrait l'être. Ces ateliers peuvent être ludifiés de façon à ce que ça le soit, et surtout limiter ce temps qui ressemble, en fait, qu'on en parle, à une corvée administrative, quoi. Si à chaque fois qu'on joue, je sais pas, 4 heures, on doit en passer une à s'embêter avant, vaut peut-être mieux aller au cinéma, quoi. L'autre spécificité peut-être du jeu de rôle par rapport aux gènes, encore une fois, il y a plein de gènes qui sont des contre-exemples, il y a des gènes sériels, etc. Mais c'est qu'on peut, le voir à chaque campagne et à chaque session. Alors, je vais prendre l'exemple d'un jeu sur lequel j'ai bossé il y a quelques années, qui s'appelle Tanya. Alors, c'était pas du tout conscient, et ça n'a rien à voir avec les ateliers, je ne savais pas que ça existait à cette époque-là. Mais c'est un jeu, par exemple, où on commence chaque session par l'expérience. La gestion de l'expérience. C'est-à-dire, au lieu de le faire à la fin des parties, on le fait au début. Pourquoi ? Pour se rappeler les parties en question, pour voir comment les valeurs du personnage ont évolué. Et en fait, c'est un moyen de se remémorer tout ça et de se remettre dans le bain. Accessoirement, c'est aussi parce que le MJ a des problèmes de mémoire. Mais il se trouve que c'était pratique. Alors la question, est-ce qu'on va pas dénaturer le JDR, on va gagner du temps ? Non. Il y a plein d'autres façons. Enfin, il y a déjà plein de boucles de gameplay différentes dans le JDR, et c'est pas en ajoutant des moments un petit peu à part que ça va créer des problèmes. En tout cas, c'est pas pour cette unique raison. Sur le fait de dire que c'est quelque chose qui existe déjà, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que tout n'existe pas déjà, bien sûr. Sinon, ce serait pas très intéressant. Par contre, il y a énormément de choses qu'on va retrouver. Tout à l'heure, on parlait des mécaniques de confiance. Enfin, sur le fait de se crier dessus. C'est une façon de gérer ce problème. Tout à l'heure, on parlait de fonctions. Dans le jeu de rôle, on a d'autres fonctions. Enfin, dans le jeu de rôle. Ce problème existe, et donc ce qui sert d'outil pour résoudre ce problème, ce qui a la même fonction, ça peut être par exemple d'utiliser la carte X, les lignes et les voiles, ce qu'on va retrouver dans Breaking the Ice, Prime Time Adventure, des choses comme ça. Et somme toute, même si on le fait déjà, ou même si on en parle déjà, à mon avis, on perd rien du tout à l'essayer, parce que c'est pas forcément évident de le faire la première fois. On va retrouver. Alors, je sais plus si j'en ai parlé là ou avant. Sur les éléments pratiques et le hors-jeu. Quand on parlait tout à l'heure des ateliers de fin de partie, quand on faisait des tournois, par exemple, de jeux de rôle dans les années 90, et qu'il y avait je sais pas combien de tables simultanées de donjons, et qu'il fallait qu'elles s'arrêtent à un moment donné, parce que le club qui organisait se faisait foutre dehors, et sinon il y avait les flics, eh ben, il y avait des méthodes pour gérer ça. Et une méthode, par exemple, c'était de dire, à 2h du matin, la prochaine porte couvre les PJ, c'est celle où il y a de la salle où il y a le dragon. Peu importe où ils sont. C'est quelque chose qu'on compensait, hein. Ça aurait été vachement plus sympa qu'il y ait un truc dans le jeu qui permette de gérer ça. On pouvait le compenser dans le scénario, on pouvait le compenser dans la pratique, peu importe. Ça arrivait. On va retrouver, si vous voulez, une même logique dans tout ce qui est le tester des règles. Par exemple, pour tester un conflit ou un combat, peu importe si le jeu fait la différence, on va avoir ce que plein de gens faisaient et font, c'est-à-dire une fois que vous avez créé vos persos, au fait, on va savoir qui c'est le plus fort de Batman, Superman, et on met nos deux persos et on essaye de faire un combat pour voir comment ça roule. On peut avoir le scénario, enfin le meneur de jeu qui vous fait commencer par un combat comme ça, vous testez. On peut avoir un scénario qui est fait pour, on parlait de scénario tutoriel ce matin, si vous aimez les jeux asiatisants, le scénario du tournoi d'arts martiaux, ou qui est systématiquement fait pour ça. Et vous pouvez avoir des jeux qui l'intègrent dans leur design, comme je pense par exemple à Dogs in Vineyard, où il y a un conflit initiatique, en fait, une initiation qui permet de tester un peu tout ça. Alors juste un autre exemple sur la calibration. Enfin bon, non, je peux plutôt aller. Tout ça pour dire, il y a plein de jeux qui le font. Pourquoi est-ce qu'on s'embête là-dessus si ça existe déjà? Alors, le fait est, c'est que ça n'existe pas vraiment. C'est juste qu'on a des outils qui répondent aux mêmes fonctions. C'est-à-dire que globalement, on a les mêmes problèmes. Pourquoi? On n'a pas. Alors, je peut-être pas montrer les tableaux tout à l'heure, mais tout est loin d'être rempli. Et surtout, on ne voit pas ça comme unité. Pour moi, le réel apport du GN par rapport à ça, c'est que tous ces éléments qui sont disparates, on les voit comme une seule chose. Dans le jeu de rôle, énormément de ces aspects vont être vus à l'échelle d'un jeu. Et on va vous dire, par exemple, je sais pas, On Mighty Fuse, un truc qui va le faire sortir du lot, c'est sa création d'univers et sa création de cartes. Globalement, c'est un atelier de création de monde, qui est fait d'une façon bien précise. Mais le fait de le séparer et de pas le voir comme un ensemble, ça veut dire que quand on va créer un jeu, quand on va critiquer un jeu, quand on va y réfléchir, on va dire c'est génial parce que c'est un truc que font peu d'autres jeux. Mais on va pas dire, par exemple, cette création elle est bien, mais elle est un peu courte et tel autre jeu le fait de telle façon. Et mettre ça en rapport. On va, y a plein de, disons, d'avantages qu'on ne va pas avoir. On va pas le voir non plus comme un truc sur lequel on peut faire, on peut innover. C'est-à-dire très souvent l'innovation aujourd'hui en jeu de rôle, j'exagère en disant ça, mais ça va être quel système de résolution. La plupart des jeux aujourd'hui, on s'en fout du système de résolution. On s'en fout. On a la base, on pourra en mettre une autre, ça changerait pas grand-chose. Par contre, c'est tout ce qu'on va mettre autour qui va être, qui va permettre de donner la personnalité. Et je vais m'en tenir là. Je pense que j'ai à peu près fini. Ouais. Voilà.
Le temps d'une question rapide, pour pas prendre trop de retard. Une ou deux questions, mais très rapide. Dans la question et dans la réponse aussi. Personne? Allez.
Non, pas lui.
Si. Tu disais vouloir t'adresser aux auteurs tout à l'heure pour tout ça. T'attends quoi d'eux? Il faut qu'on fasse quoi maintenant? Enfin, je veux dire, moi je veux bien, mais
participer au Game Chef déjà.
Non.
Je pense qu'il y a plein de jeux. Qu'il y a plein de jeux à faire. Encore une fois, c'est déjà en cours en fait. Mais en essayant de gérer ces aspects là. Tu vois le tableau que je présentais tout à l'heure avec plein d'éléments et qu'on peut le faire pour améliorer nos parties de jeu de rôle, juste on savait pas que c'était possible. Moi par exemple sur les questions de création de groupe, Il y avait plein de choses, mais avant de le faire dans un jeu, je savais pas que c'était possible. Puis en le faisant dans 4-5 jeux différents, dire, ok, ben comment je l'adapte à ces jeux-là, qu'est-ce que j'y gagne, et je m'aperçois que j'arrive à mieux le faire. Mais c'est un des aspects. Il y en a 3 pages. Du coup, je sais pas, y a sans doute, ça nous permet sans doute d'aller chercher d'autres thématiques. Le fait de se dire, je sais pas, moi j'aime bien, enfin j'ai pas mal réfléchi à une époque sur les notions de jeu, sur la tragédie. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce qui nous permet de faire ça? Bah, y a peut-être qu'un atelier qui permet d'expliquer où on veut aller, ce qu'on veut faire, c'est un moyen de permettre ces choses-là. Peut-être que c'est une très mauvaise piste. Je sais pas. Mais l'idée, c'est que ce soit toi qui réfléchis, c'est pas moi.
Du coup, chaque atelier est relativement spécifique à un jeu donné. Enfin, il y a pas de, c'est pas alors, tellement une recherche universelle. Enfin, c'est plus une application pratique, jeu par jeu ou thème par thème, en fonction du propos du jeu, quoi.
Alors, je vais te donner 2 réponses. La première, c'est on voit par exemple sur pas mal de GN que les ateliers sont repiqués les uns des autres. Parce que ça marche bien et qu'on prend en gros le même thème. Et de l'autre côté, ma vraie réponse, entre guillemets, c'est peu importe, du moment que ça marche, je crois que ça crée de nouveaux jeux et que ces jeux sont intéressants. Si moi, enfin franchement, un des trucs qui m'a beaucoup intéressé sur cette histoire d'atelier, c'est clairement les logiques de création de groupe, parce qu'à un moment je me disais, mais comment on fait pour que ce soit intéressant, quoi? Comment on fait quand je vais en convention, si je commence à faire créer des persos, ben, les gens tirent la gueule pendant 3 heures, et après on commence à jouer. Comment je fais pour que ça les intéresse dès le début, sans leur filer des prétirés. Et de se dire, bah ok, bah moi, enfin, ça m'a permis d'avoir des choses que je trouve intéressantes. Aujourd'hui, je le trouve par exemple dans le story game que c'est quelque chose qui bloque. C'est-à-dire on va avoir tout le temps la création d'univers, plus on va décrire ce qui va se passer avec un thème. Enfin, ça va beaucoup, beaucoup se ressembler. C'est un peu ce que disait Vivien ce matin, je crois. Allons voir, enfin, servons-nous-en, profitons, mélangeons, croisons les effluves, et voyons ce que ça donne, quoi.
Ok, merci. Merci Jérôme, merci beaucoup.